Cheng Ruolin est journaliste. Il est correspondant en France du quotidien shanghaïen Wen Hui Bao et du quotidien Wen Wei Po, publié à Hong Kong. Son dernier livre, Les Chinois sont des hommes comme les autres, paru aux éditions de Noël, est une entreprise réussie de démolition de toutes nos idées reçues sur la Chine. Sans langue de bois et avec humour, il passe au scanner l'âme de la classe moyenne avec un seul espoir, nous donner la clé de la compréhension des Chinois. Alors Cheng Ruolin, votre père a traduit Balzac en chinois. Cela suppose que vous avez eu une enfance francophile.
Absolument. Tout à l'heure, Jean-Michel Carré, hein, était maoïste. Moi, j'étais grandi avec l'humanité et surtout, je pense que c'est l'humanité rouge parce que mon père est à l'époque m'envoyait toujours aller chercher le journal en français. C'est le seul journal en français qu'on puisse trouver à l'époque à Shanghai. Alors, comme récompense, mon père me raconte l'histoire, le dessin, le petit chien Pif ou le chien. Et c'est depuis mon enfance, je connais déjà en France, lointain, le pays de Victor Hugo, Balzac, etc. Il y a un petit chien qui est très amusant. Voilà.
Ah, c'est pas banal, un jeune chinois qui connaît Pif.
Oui, il n'y a pas beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je pense que comme j'écris dans mon livre, même pendant la Révolution culturelle, mon père nous a raconté le livre dans la main, beaucoup de romans français, le 93, le Monte de Cristo de Alexandre Dumas, etc. Et j'étais dans ma jeunesse très influencé par la culture, les romans surtout françaises. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui on peut se rencontrer Jean-Michel Carré et moi. C'est vraiment les cultures croisées, et c'est vraiment très bien.
Alors, vous étiez enfant, on l'a dit, lors de la Révolution culturelle. Quels souvenirs vous en avez en dehors de Pif?
Ah oui, vous savez, la Révolution culturelle, c'est une période le plus sombre de notre histoire contemporaine de mon pays. Dans mon livre, j'ai en fait raconté non seulement la guerre de l'opium, mais qui a un traumatisme gigantesque jusqu'à aujourd'hui dans la conscience collective des Chinois, mais une autre, c'est la révolution culturelle, c'est-à-dire beaucoup de Chinois, y compris je crois les dirigeants d'aujourd'hui, sont passés cette période sous influence de cette période, parce que c'est à travers là, cette période, qu'on commence à comprendre mieux quelle direction que la Chine doit apprendre. Tout à l'heure, j'ai écouté attentivement Michel Carré, Jean-Michel Carré. C'est très, très intéressant. C'est effectivement la croissance 30 glorieuses chinoises atteint jusqu'à aujourd'hui un certain, le niveau de vie a beaucoup amélioré, il atteint un certain niveau. Et les questions suivantes, c'est que, qu'est-ce qu'on cherche encore? Est-ce qu'on, le moment où on a un appartement, une voiture, on voyage dans le monde, qu'est-ce qu'on veut encore? Bon. En réalité, la Chine n'est pas, malgré toutes ces différences, je dis, les Chinois sont des hommes comme les autres, malgré toutes ces différences, mais la Chine, en fait, dans trois processus historiques, c'est l'industrialisation, l'urbanisation et la démocratisation. En fait, maintenant, même l'industrialisation n'est pas encore terminée. C'est la base de tous les deux autres processus, en fait. La plupart des gens sont encore, 60% des gens sont encore des paysans. C'est à cause de ça qu'il y a un main-d'œuvre des Mingong inépuisable. Mais ils sont en train de devenir des ouvriers. Avec cette industrialisation, la Chine connaît un autre processus, c'est l'urbanisation que la France a déjà terminé depuis un siècle, même deux siècles, un siècle et demi. Ce processus est très important aussi parce que ça crée une vraie classe moyenne. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 70% des gens habitent encore à la campagne en Chine. Alors, ce processus qui a causé beaucoup de problèmes pour la Chine aujourd'hui, qui va, il a commencé il y a seulement 30 ans. Je pense qu'il faut au moins 30 ans encore pour arriver à bout de ce processus. Imaginons, hein, c'est presque 800 millions de paysans allés en ville. Le problème de bulle immobilité ne sont pas prêts à terminer. Alors, il faut voir, je pense, la fin, ces deux processus, c'est-à-dire l'industrialisation et l'urbanisation, pour que les Chinois puissent envisager le troisième processus historique, irréversible, je crois, la démocratisation. Bien sûr, la démocratisation en Chine, ce sera sous une forme, je pense, différente que la démocratie actuelle en Occident. Parce que tout simplement, la Chine est un pays, en fait, athée, un pays sans religion, un pays qui est uni sous une culture traditionnelle, c'est-à-dire confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Son caractéristique, c'est une sorte de tolérance et ouverture. En fait, tous les autres doctrines étrangères, une fois arrivées sur le sol chinois, il est toujours sinisé. Pourquoi le marxisme peut marcher en Chine, pas en Union soviétique? Je crois que la réponse est déjà donné il y a 60 ans. C'est que lorsque Mao Zedong se dit qu'il est marxiste, mais il a dit aussi il faut transformer marxisme en situation chinoise, c'est-à-dire plus simplement siniser marxisme. Durant le 8e siècle, lorsque bouddhisme arrivait en Chine, bouddhisme n'est pas né en Chine, ce n'est pas chinois, c'était une religion indienne. En fait, c'est plutôt une sorte de philosophie qu'une religion. Lorsqu'il est arrivé en Chine, il y avait, au début, il y a certains empereurs ont refusé, d'autres ont accepté. Il y a plusieurs siècles de lutter entre le taoïsme et le bouddhisme. Mais finalement, on a tellement bien sinisé le bouddhisme et maintenant, confucianisme, taoïsme et bouddhisme deviennent trois piliers très bien ancrés dans la société chinoise. Je pense que la démocratie en Chine, ce sera le même processus selon les caractéristiques de la société chinoise, ses traditions, sa culture et surtout les caractères de la population. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est un pays avec 1,3 milliard d'habitants, 56 ethnies, plusieurs langues différentes, des dialectes différents, des traditions différentes. Pour réunir tout ça, on ne peut pas introduire simplement une démocratie toute faite occidentale. Il faut, je crois, selon les caractéristiques chinoises, les améliorer pour qu'ils puissent marier bien avec la tradition chinoise.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour le suffrage universel?
Absolument, je crois que c'est pas interdit. Maintenant, on ne le fait pas.
C'est pas interdit. Imaginons,
vous savez, la lutte de classe, par exemple, c'est une conception introduite de l'Occident. C'est le marxisme. Est-ce que dans la tradition chinoise, la lutte des classes existait? Jamais. Parce que vous savez, même 49, lorsque le communisme arrive au pouvoir, Mao Zedong avait dit une phrase très connue, très claire. Il a dit, mais la Chine n'est pas un pays de prolétariat. La Chine est un pays de petits bourgeois. Mais pourquoi? Parce que plus de 80% des gens vivent à la campagne qui possèdent leur maison, leur terre, surtout après 49, le Parti communiste a distribué la terre à tout le monde, c'est-à-dire ils possèdent un bien déjà. Bien sûr, après, il a le problème de mouvement de communes et après la révolution culturelle. Mais aujourd'hui, quand on regarde la Chine, 80% des Chinois possèdent leur maison. Parce que tous les paysans possèdent leur maison, possèdent leur terre. Ils ne peuvent pas vendre leur terre parce que la terre n'appartient pas à eux, à l'État, mais ils peuvent louer aux autres.
Mmh. Oui, c'est un système un peu spécial.
Quand, et c'est spécifique de la Chine. Mmh. C'est très différent que l'Inde. Par exemple, l'Inde, ils ont fait la même révolution, ils ont distribué la terre, mais les paysans peuvent vendre leur terre. Et au bout de 40 ans, une grande partie des paysans indiens ont perdu leur terre. Ils sont devenus vrais prolétariats. Mmh. Tandis qu'en Chine, quand l'ONU a dit, par exemple, que la Chine a reconnu effectivement, il y a encore 100 millions de Chinois vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire le revenu quotidien est moins de 1 dollar. Mais l'ONU a oublié, et beaucoup de Chinois ont oublié aussi, c'est que c'est le revenu, c'est pas. Ils ont déjà leur terre et leur maison. C'est-à-dire, le revenu, c'est pour la vie courante. Mmh. Ils peuvent toujours cultiver leur terre pour des récoltes.
Ça, c'est la
différence. Bien sûr, je ne dis pas que c'est idéal. Il faut continuer.
Ça, c'est sûr.
Mais je crois que la démocratisation, même les chercheurs, les politologues occidentaux ont dit clairement que si on veut la démocratie occidentale, avec des élections universelles directes, fonctionne bien, il faut que les revenus par tête dépassent 10 000 dollars.
Ah bon,
actuellement,
pas,
c'est loin.
Ok, d'accord. Alors, autre chose, vous êtes journaliste chinois, vous vivez en France. Comment vous travaillez à l'étranger? Comment ça se passe?
Ah ben, d'abord, je parle français, heureusement. Alors, j'essayais de donner une image de la France le plus complet possible. C'est-à-dire, je parle à la fois du côté très positif de la France, mais aussi du côté négatif. Il faut dire que je parle rarement du côté négatif, par exemple.
Vous essayez d'être objectif, disons.
Oui, voilà. Pourquoi je dis pas, par exemple, le problème de Cahuzac, j'ai fait un petit papier. Mm-hmm. Pourquoi c'est très bizarre. Les Chinois voient la France comme un pays, il dit toujours, romantique. Et les lecteurs, en général, ont une tendance de ne pas croire que la France a des problèmes. Par exemple, le problème de Mediator, j'ai parlé aux Chinois que ce médicament, durant 20 ans, a causé la mort de 1000 personnes, même plus. Les gens ne veulent absolument pas croire.
Ils pensent que c'est réservé à la Chine, ça.
Ah oui, voilà. Ils pensent qu'il n'y a que les Chines qui ont des problèmes comme ça. Le lait...
Le lait contaminé.
Oui, ça fait 6 morts. Mais on dit déjà que tous les Chinois boivent du lait empoisonné. Mmh. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Bon, je pense que quand je critique beaucoup les correspondants, journalistes correspondants français en Chine...
Oui, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde.
Voilà, je disais qu'eux, ils concentrent trop sur certains aspects de la Chine. Même ils ont dit la vérité, mais quand on ne dit que ces aspects, on aura une image de la Chine complètement déformée. Mmh. Tandis que moi, je critique aussi, je fais mon autocritique, mais aussi je critique mes confrères chinois, c'est que nous donnons trop, une image lyrique de la France. On parle rarement de la crise, on parle rarement les problèmes de chômage. Par exemple, j'avais proposé d'ailleurs à la rédaction de faire des reportages, par exemple un interview d'un chômeur français, comment vivre un chômeur français, mais il veut absolument pas. Non, ça nous intéresse pas. Et on veut beaucoup plus de papiers sur du côté plus comment dirais-je, intéressants, entre guillemets. Par exemple, ils veulent que je fasse des papiers sur les vins français, sur les produits de luxe français, sur tous ces côtés très positifs.
Ben voilà, finalement, on reste dans les idées reçues. Les Français attendent une certaine image de la Chine qui est plutôt négative et les Chinois attendent une image positive de la France. À propos de vos collègues, vous en citez un qui va jusqu'à dire que les journalistes chinois sont devenus la voix de l'Amérique. Alors j'ai trouvé ça assez, assez
oui,
fort.
Ça c'est, oui, c'est, ça c'est...
Un peu osé quand même.
vous savez, depuis la guerre de l'opium, la Chine avait perdu pratiquement toutes les guerres, sauf peut-être très peu, incertain, perdu pratiquement toutes les guerres contre les Occidentaux. Alors ça détruit la confiance des Chinois. Vous savez, des années du 19e siècle, les Chinois ont dit que notre culture, parce qu'à l'époque, les Chinois croient que la culture chinoise, traditionnelle chinoise, était supérieure que tous les autres. Tous les autres sont des barbares, nous sommes au milieu du monde, c'est les autres devaient nous rendre visite, et nous sommes supérieurs. Mais à l'époque, comme on était battus par les Anglais, les Français, même les Belges, même les tout petits pays qu'on n'a jamais entendu parler. Alors, ça détruit notre confiance. D'abord, on pensait que, bon, notre culture restait quand même supérieure, mais c'est notre industrie n'est pas bon. Bon, on achète des bateaux, on essaie de faire notre industriel, nous aussi, mais on continue à être battu. En 1900, vous savez, 8 alliés occidentaux ont envahi la Chine. Et même l'impératrice s'enfuit comme ça. Ben, en ce moment-là, on pense que notre culture a un problème. C'est à cause de ça que lorsque la République est née, en 1911, le premier slogan, c'est « abattre le confucianisme ». Mais après, il y a la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Après, il y a la révolution, le communisme arrive au pouvoir et puis la révolution culturelle. Ça a détruit tellement la confiance chinoise qu'il est allé très très loin. Le prix Nobel de la paix chinois, très connu, Liu Xiaobo, avait dit une phrase que tous les Français ne le savent pas. Il a dit, pour que la Chine devienne démocratique, moderne, prospère, riche, il faut être colonisé par les Occidentaux. Il a dit, Hong Kong a été colonisé 100 ans pour devenir riche, prospère, démocratique. Je ne sais pas d'où vient cette démocratique à Hong Kong. Sous le règne Angleterre, il n'a jamais eu aucune élection. Et il a dit, puisque Hong Kong a besoin de 100 ans, ben, la Chine, lui, dit, a besoin 300 ans. Bon, il dit il faut 300 ans de colonisation de la Chine pour que les Chinois vivent heureux.
Ça n'y a pas réussi. Hein.
Oui, voilà. Et il a dit cette phrase durant des années 90. À l'époque, l'économie de la Chine vient de décoller. Mais le problème, c'est que en 2006, le moment où la Chine est déjà... L'économie de la Chine, la puissance chinoise économiquement dit, a déjà dépassé la France. Il a répété cette phrase et il a dit, il est persuadé que cette phrase n'est pas fausse et ça fait réfléchir. Bon, cela veut dire que l'intelligentsia chinoise a perdu complètement la confiance en nous-mêmes. Ils pensent que nous sommes mauvais, non seulement la culture, la tradition, même certains sont allés si loin qu'ils disent que la race chinoise n'est pas une bonne race. C'est à cause de ça que les journalistes correspondants à l'étranger, sous l'influence de cette pensée pratiquement dominante dans les courants intellectuels, c'est-à-dire dans les universités, dans les médias, mais aussi dans des instituts de recherche, donc ils ne voient l'Occident que du côté positif. Bien sûr, ça allait jusqu'à 2008. 2008, à cause de crise aux États-Unis, ça commence à changer. Mais seulement, ça commence à changer. Jusqu'à maintenant, les gens commencent à poser la question, puisque la démocratie a causé, n'a pas pu éviter la crise si grave aux États-Unis, en Europe. Est-ce que nous, comment nous devons faire pour éviter la même erreur?
Alors je rappelle que Liu Xiaobo est aujourd'hui en prison, et pour longtemps. Je ne sais plus combien d'années, mais...
Il était condamné à 11 ans de prison.
Voilà, bon, ça fait tout de même long. Alors pour terminer en deux
Absolument.
Minutes, François Hollande n'est jamais allé en Chine, notre président français. Quels sont les enjeux de sa visite? Il ira fin avril, dans quelques jours.
Oui, je pense que c'est très important. Sans connaître la Chine pour un président de la cinquième puissance, ça paraît un peu bizarre, mais on dit c'est pas grave, c'est vrai. En Chine, on dit toujours que sur un papier blanc, on peut faire un dessin plus joli.
Oui, c'est ça, une feuille vierge, c'est plus pratique.
Surtout, c'est que il a attendu longtemps pour aller en Chine, mais il sera le premier chef d'État étranger que le nouveau président chinois Xi Jinping va recevoir. C'est tant mieux.
C'est un beau symbole.
Oui, mais il faut faire, moi je pense, très attention. La Chine et la France a montré, les deux côtés, surtout les dirigeants, leur volonté de renforcer les relations bilatérales traditionnellement très amicales depuis la reconnaissance du général de Gaulle de la Chine il y a 50 ans. Pour renforcer cette relation, je crois, ce sera bénéfique pour les deux. Ce sera une relation gagnant-gagnant. Mais le président chinois Xi Jinping a dit une phrase lors de sa visite d'État en Russie. Moi, je trouve que c'est très important concernant les relations entre les États, entre les peuples. Il a dit, pour que les deux États, deux pays, puissent avoir un lien étroit, amical, il faut que les deux peuples s'apprécient, se connaissent et s'entendent bien.
Eh ben, je pense qu'on va rester sur cette belle phrase parce que la fin de l'émission arrive.
Déjà ?
Et oui, on ne voit pas le temps passer. Et je pense que c'est une bonne conclusion. En tout cas, espérons que cette première rencontre entre François Hollande et Xi Jinping soit fructueuse.